et qu'à moins d'en programmer un nouveau, aucune solution décente ne passera par l'éradication de l'État d'Israël qui, le découvriront-ils un jour, se trouve sur une petite bande de terre située pile entre la rivière et la mer.
Sophia Ara, merci. Les infos à suivre.
France Inter lance l'École des Odyssées, un grand concours national de création de podcasts en partenariat avec Belin Éducation.
Vous êtes professeur de CM2, alors embarquez vos élèves dans un projet pédagogique et ludique avec l'École des Odyssées. Choisissez un personnage haut en couleur et fabriquez votre odyssée tout au long de l'année. La classe gagnante enregistrera son histoire dans les studios de France Inter.
Inscrivez-vous dès maintenant sur franceinter.fr.
En route, mauvaise troupe!
Avec la MAE, le spécialiste de la protection de l'enfant et de la famille, numéro 1 de l'assurance scolaire.
9h. Les dernières infos, Anaïs Feuga.
La réaction d'Atos ce matin à la proposition de l'État de racheter ses activités souveraines. Le géant français de l'informatique dit l'accueillir avec satisfaction. Fleuron de la cybersécurité, acteur essentiel des JO de Paris et qui possède notamment des supercalculateurs utilisés pour la dissuasion nucléaire et des contrats avec l'armée française. Le groupe Atos est en pleine tourmente financière. Il revoit d'ailleurs à la hausse ses besoins de financement. 1,1 milliard d'euros pour financer son activité 2024-2025. De son côté, l'entreprise néerlandaise Philips va payer plus $1 milliard aux États-Unis. Le fabricant de dispositifs médicaux solde ainsi avec cet énorme chèque les litiges engagés dans le pays après avoir dû rappeler des appareils respiratoires défectueux. Leurs utilisateurs risquaient d'inhaler ou d'avaler des morceaux de mousse toxique ou plus grave, des cancers à long terme. Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, est auditionné aujourd'hui par la commission d'enquête sénatoriale. Il doit s'expliquer sur la politique du géant pétrolier et sa compatibilité avec les engagements de la France sur les droits de l'homme et l'accord de Paris sur le climat. Depuis 3 mois, cette commission a entendu une quarantaine d'experts, politiques et acteurs du secteur énergétique. Ils ont décrit le rôle du géant pétrolier dans l'exploitation des énergies fossiles qui aggrave la crise climatique. Rémi Brancato.
C'est la 5e fois que Patrick Pouyanné répond à des parlementaires depuis 2 ans. Rien d'inquiétant a priori.
Une commission d'enquête sénatoriale, c'est toujours assez polissé. Hein.
Mais le rapporteur écologiste de la commission, Yannick Jadot, entend bien mettre le PDG de Total Energy face à ses contradictions.
Pourquoi M. Pouyanné n'investit pas massivement sur les énergies renouvelables plutôt que finalement de profiter de la rentabilité du pétrole et du gaz pour nous emmener dans le chaos climatique? M. Pouyanné n'échappera pas aux questions sur sa volonté d'aller chercher toujours plus de pétrole sur ses projets en Ouganda, en Tanzanie, avec des dizaines de milliers de personnes déplacées à un risque environnemental majeur.
Devant la commission, les scientifiques ont rappelé qu'il faut stopper toute nouvelle exploitation d'énergie fossile pour limiter le réchauffement. Mais pour la droite, majoritaire au Sénat, Patrick Pouyanné n'est pas seul responsable.
C'est pas la question de Total.
Sophie Prima, sénatrice LR, estime que l'exemple du projet de forage en Ouganda pose une autre question.
C'est de savoir comment est-ce qu'on n'empêche ces pays plutôt dans le bas du tableau de la richesse mondiale de profiter de ressources qui leur permettent de grandir économiquement.
Des ressources pétrolières et gazières, de loin première source de revenus pour Total, qui annonce un bénéfice record de $21 milliards l'an passé.
Audition prévue tout à l'heure à 17h au Sénat. Le rapport sera rendu en juin prochain. Autre grand patron, l'héritier de l'Empire Lagardère, convoqué aujourd'hui par les magistrats du parquet national financier, selon le journal Libération. Arnaud Lagardère entendu dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en 2021 pour abus de biens sociaux. Le Hamas doit donner dans la journée sa réponse à une proposition de trêve élaborée par l'Égypte, corrigée par Israël. Réunion prévue au Caire. L'atmosphère est positive, selon un responsable du mouvement islamiste palestinien. Depuis plus de 6 mois de guerre, seule une trêve d'une semaine a eu lieu fin novembre. En Allemagne, la justice se penche aujourd'hui sur un projet de coup d'État de l'extrême droite qui avait stupéfié le pays. Le groupuscule projeté ni plus ni moins d'envahir le Bundestag à Berlin, la Chambre des députés, pour arrêter les élus et renverser le gouvernement. 9 premiers suspects comparaissent à partir d'aujourd'hui dans un procès fleuve à Stuttgart, à Berlin. Sébastien Baer.
Pour préparer le coup d'État, le groupuscule avait fait l'acquisition de gilets pare-balles, de casques, de menottes et d'appareils de vision nocturne. Lors des perquisitions, la police a aussi saisi plus de 700 pistolets, fusils, arbalètes, couteaux et machettes. Le plan des citoyens du Reich était conçu en 2 temps. Les militants devaient envahir le Bundestag pour neutraliser les députés et renverser le gouvernement. Pour rendre crédible ce scénario, la cellule avait prévu de recruter un sosie du chancelier Olaf Scholz chargé d'annoncer le changement de pouvoir. Le groupuscule des citoyens du Reich forme un attelage assez hétéroclite. Parmi ses membres, on recense d'anciens officiers de l'armée, un chef cuisinier réputé, une astrologue, une juge et un aristocrate de 73 ans. Cet homme, qui se fait appeler Henri XIII, prince Royce, devait prendre la tête du pays après le putsch. Les militants, dont le nombre est estimé à un peu plus de 20 000 en Allemagne, devaient signer un pacte de confidentialité au moment de rejoindre la mouvance. Le texte précisait que toute trahison était passible de la peine de mort. Berlin, Sébastien Baer, France Inter.
Au pouvoir depuis 2018 en Espagne, le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez va-t-il quitter son poste ? Réponse dans une heure. Il avait pris tout le monde de court la semaine dernière en annonçant réfléchir à sa démission après une plainte déposée par une association d'extrême droite contre son épouse. Le parquet a demandé le classement de l'enquête. Et puis le président chinois est attendu en visite d'État en France. Xi Jinping sera reçu les 6 et 7 mai. Il se rendra aussi dans les Pyrénées avec Emmanuel Macron. Après avoir inauguré un cinéma à son nom ce week-end à Trappes, Omar Sy rejoint le jury du prochain festival de Cannes, présidé cette année par Greta Gerwig. Autre actrice française dans ce jury, Eva Green, la Milady des Trois Mousquetaires. Un jury au total de 4 hommes, 5 femmes pour le festival de Cannes qui débute le 14 mai.
Anaïs Feuga, merci. À suivre, restez avec nous. On est ensemble jusqu'à 10h.
France Inter, 10h, Ali Rebbi.
Ce lundi, on s'intéresse au tabou de l'andropause, cette ménopause au masculin qui entraîne une baisse de la libido et des érections, de la fatigue, de la déprime, parmi les nombreux symptômes.
Grand bien vous fasse, tous les jours à 10h sur Inter.
À l'écoute des entreprises avec l'APEC. Alors que les TPE-PME ont bien du mal à recruter, l'APEC aide les entreprises à recruter le profil qui correspond vraiment à leurs besoins, notamment avec le service Sourcing Plus. Cet accompagnement personnalisé a permis à Eurogroupe Consulting de recruter 3 talents seniors. Un service gratuit à retrouver sur apec.fr.
Il est 9h07. Et le 7-10 d'Inter continue dans une quinzaine de minutes. Léa, vous recevez la romancière la plus lue de France.
Eh oui, près de 7 millions d'exemplaires vendus en 10 ans et 9 romans. Elle sort le 10e cette semaine, Plus grand que le ciel chez Flammarion. Son plus personnel, son plus intime, où elle évoque le deuil impossible de son père. On en parle avec elle à 9h20. Virginie Grimaldi est notre invitée.
La page édito de ce lundi, Média, Cyril Lacarrière nous parlera d'un autre Cyril, Féro, animateur star de France Télévisions. Culture, Elisabeth Philippe se demandera qui sont les impressionnistes d'aujourd'hui.
Et puis il a fait de la mer Méditerranée le centre de son existence et publie un roman qui donne envie d'aller se baigner là tout de suite. Le jeune écrivain marseillais Rémi Baye est la nouvelle tête de Mathilde Serrel à 9h50. Mais tout de suite, Nicolas, votre débat du 7-10.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-10.
Débat ce matin sur l'avenir de l'audiovisuel public. Une réforme est attendue dans les prochaines semaines à l'Assemblée nationale. C'est une proposition de loi soutenue par Rachida Dati qui a pour projet de fusionner Radio France, France Télévisions, France Média Monde et l'INA en une seule entité qui pourrait porter le nom de France Média. Les choses pourraient aller très vite si la loi est votée avec la mise en place d'une holding au 1er janvier prochain. Pour en débattre ce matin, Laurent Lafon, sénateur Union Centriste du Val-de-Marne, président de la commission culture du Sénat, membre du conseil d'administration de Radio France et auteur de cette proposition de loi. Et Jean-Noël Jeannenet, historien, ancien PDG de Radio France et de RFI, producteur de l'émission Concordance des temps chez nos amis de France Culture. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être au micro de France Inter ce matin. Laurent Lafon, vous êtes favorable donc à cette holding. Jean-Noël Jeannet, vous, au contraire, dans une tribune au Monde, vous avez fait part de votre inquiétude face à ce projet. Qu'est-ce qui vous inquiète ?
Je pense que ce n'est pas une bonne action et que l'idée que l'union fait la force est probablement une idée trop simple. Alors je passe vite sur deux points autour duquel nous sommes d'accord, monsieur le sénateur, c'est-à-dire l'extrêmement bonne santé de l'audiovisuel public et de Radio France notamment, je le dis avec plaisir ici, et d'autre part, et d'autre part le mauvais coup qui a été porté en supprimant la redevance. Je vois que le sénateur est très préoccupé de la pérennité de nos ressources. Sur ce point, nous pouvons donc passer vite, mais c'est un socle important, je crois, pour notre débat. À partir de quoi, je pense que l'idée de faire une fusion, alors vous parlez de holding, la ministre est très très claire, elle a l'idée d'en faire une fusion, ce sera une gouvernance commune. L'idée de regrouper les différentes sociétés de l'audiovisuel public pour une meilleure efficacité, je crois que c'est une pétition de principe et que c'est une mauvaise idée. Si nous fabriquions des automobiles, on peut imaginer que deux usines d'automobiles se rapprochent et soient plus efficaces. En l'occurrence, ces sociétés, ce sont des chevaux légers, ce n'est pas une unité puissante et raide. Il faut que nous puissions continuer d'être différents, d'être spécifiques. Et pour cela, l'idée de se rapprocher me paraît très, très, très malvenue. J'ajoute que tout le monde sait bien que, du coup, le fonctionnement de la machine serait extrêmement alourdi. Il y aurait, dans le feuilleté des pouvoirs, on va faire un niveau supplémentaire. Il y aura un président, et puis il y aura des directeurs généraux. Et puis tout ça va marcher avec des débats, des discussions de pouvoir, d'influence. On passera énormément de temps à se disputer l'autorité, alors qu'il me paraît qu'aujourd'hui, toute l'énergie de nos maisons doivent être dirigée au service d'un seul but, c'est-à-dire l'adaptation. Et vous avez commencé ici, à Radio France, de le faire magnifiquement, c'est-à-dire de s'adapter au nouveau décor que les technologies contemporaines nous proposent. Alors, concentrons notre énergie à cela et non pas...
Laurent Lafont, vous entendez les inquiétudes de Jean-Noël Jeannet, qu'est-ce que vous lui répondez ?
J'entends bien sûr les inquiétudes. D'abord, je voudrais rajouter un troisième point aux deux points d'accord. C'est que d'abord, nous sommes l'un et l'autre défenseurs du service public. Et il y a, en dehors de ce studio, des personnes qui ne le sont pas forcément. Et toute ma démarche à moi, c'est de renforcer ce service public. Qu'est-ce qui se passe ? D'abord, l'environnement du service public a changé depuis un certain nombre d'années. Il y a eu des évolutions technologiques, dont certaines sont en cours, et d'autres ne sont qu'au balbutiement. Je pense pour les évolutions en cours, le développement du numérique, et pour celles à venir, de l'intelligence artificielle. Et puis, il y a de nouvelles pratiques que nous connaissons tous. On n'écoute plus la radio ou la télévision, on ne regarde plus la télévision comme on le faisait il y a 10 ans, il y a 20 ans. Les phénomènes de replay, de numérisation font que les pratiques, notamment chez les jeunes, ont totalement évolué. Et en plus, il y a de nouveaux acteurs qui ne sont pas des acteurs français. On n'est plus dans un schéma de concurrence franco-française, on est dans un schéma de concurrence à une toute autre échelle. Quand je pense aux nouveaux acteurs, je pense évidemment aux plateformes américaines. Nous, ce que nous disons, c'est que pour continuer le travail de qualité qui est fait dans le service public, compte tenu de ce que je viens de décrire très rapidement, il faut rassembler les différentes entités du service public pour réunir les forces. C'est un constat qui n'est pas uniquement fait par le Sénat ou par la Commission de la Culture que je préside, mais qui est fait dans d'autres pays, puisque quand on regarde les modèles d'audiovisuel public partout pratiquement en Europe, il y a ce travail de réunion des forces qui est déjà opéré, et c'est un travail d'ailleurs qui est en partie partagé par les différentes entités de l'audiovisuel public, parce que quand on regarde les réflexions stratégiques, que ce soit ici, ou que ce soit à France Télévisions, ou à l'INA, ou à France Média Monde, partout on dit qu'il faut renforcer les coopérations entre les acteurs. Ben voilà, nous en sommes...
Mais est-ce que vous espérez, je ne sais pas, des programmes de meilleure qualité, des économies de personnel? Quel est fondamentalement le projet derrière la fusion? Si on parle des métiers de l'audiovisuel, produire de la télévision, faire de la radio, quel est le projet éditorial, à quoi cela va-t-il servir dans la qualité de ce qui est donné au public ?
D'abord, moi, je ne parle pas de fusion, je parle d'une holding. Et c'est,
alors,
c'est différent,
on va venir à ces questions.
Vous y reviendrez, mais
je pense que la question de principe est importante.
Oui, bien sûr. L'enjeu, c'est d'aborder ensemble les évolutions d'usage et les évolutions technologiques auxquelles vous êtes confrontés, pour lesquelles individuellement vous travaillez actuellement. Je pense à la question de l'IA, par exemple. L'IA, on en est au balbutiement. Quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur vos métiers, sur la façon de faire de la radio, la façon de faire de la télévision? On sait bien qu'il y a une... tout ça va non pas se confondre, mais il y a des convergences qui vont se mettre en place. Par exemple, indépendamment de l'IA, la question des podcasts qui est en train de se développer. On voit bien que dans le podcast, vous avez à la fois du son et de l'image. Il y a un travail de coopération
qui peut se mettre en vidéo. Existe des podcasts toujours, effectivement.
Pas toujours.
Jean-Noël Jeannet, sur cet argument principal tout de même, qui est de dire que la fusion, c'est face aux énormes plateformes numériques, que ça permet d'avoir un audiovisuel plus fort sur les questions de lutte contre la désinformation et d'usage dévoyé de l'intelligence artificielle. Quelle est votre position ?
Je me permets d'abord de répondre à la question de la comparaison, à l'argument de la comparaison avec d'autres pays. Vous nous dites que tous les pays voisins, j'ai entendu la ministre le dire aussi, ont procédé à ce genre de fusion, parce que holding ou fusion, ce sera évidemment la même chose. Si vous prenez le cas de la BBC, que l'on vante toujours, il y a un exemple tout à fait intéressant, c'est qu'en avril 2022, on a voulu fondre la chaîne d'information intérieure et la chaîne d'information internationale, parce qu'on avait diminué de 500 millions de livres le budget de la BBC. On en revient, car on constate que c'est absurde. Il faut préserver la différence. C'est un vieux slogan de Radio France.
Écoutez la différence.
Bien sûr. Et donc, ces arguments de comparaison ne me paraissent pas du tout valides. La vérité, c'est que vous allez avancer vers une fusion qui obligera tout le monde à passer sous la toise et qui, du coup, fera perdre tout à fait de vue la spécificité de chaque entreprise. Nous sommes à Radio France, ici, nous sommes à Radio France, et nous savons que le cas est tout à fait spécifique. J'ajoute que chaque fois qu'on a essayé de rapprocher la radio et la télévision, c'est toujours la radio qui a souffert. Car du côté de la télévision, il y a plus de moyens, il y a plus de narcissisme, il y a quelque chose comme une condescendance souvent à l'égard de la radio. Vous me permettrez d'évoquer un souvenir personnel. Lorsque je dirigeais cette maison, effectivement, au début de 1983, on a détaché les radios des stations de FR3 en région, on les a détachées de la télévision. Elles étaient malheureuses, elles étaient méprisées, elles étaient maltraitées. Et nous avons vu, en les intégrant dans un système de radio local public, tout à coup, elles ont refleuri, à peu près comme une plante qu'on arrose. Donc je crois vraiment qu'il faut insister sur l'originalité de chacune de nos actions, garder ce côté libre, souple, et puis multiplier, si on veut, les coopérations. C'est le rôle du gouvernement de pousser dans les conventions d'objectifs et de moyens.
Sur ce sentiment que la radio sera la grande perdante d'une fusion, qu'avez-vous à répondre à Jean-Noël Jeannet ? Parce que pour le dire clairement, les gens qui travaillent à la maison de la radio se défoncent pour faire la meilleure radio possible et ils craignent d'être absorbés par la télé. Est-ce que vous entendez cette crainte alors même que les Français plébiscitent les différentes radios de Radio France et écoutent massivement les podcasts de Radio France ?
Juste un mot avant de vous répondre, sur cette notion de préserver les différences.
J'ai besoin d'une réponse.
Oui, je vais vous la donner. Sur cette notion de préserver les différences que j'aime beaucoup. Et moi, je dirais que la première différence à préserver, c'est la différence entre le service public et le service privé. Et c'est bien le sens de la démarche que j'ai entrepris avec cette proposition. Alors, pour vous répondre, sur la spécificité de la radio, la spécificité de Radio France, moi, j'y suis très attaché. C'est pour ça que je fais une différence entre la holding et la fusion. Parce que la holding permet de renforcer les coopérations, les travaux en commun, sans pour autant nier le passé, les spécificités de chacune des entités. Après, on voit bien aussi que cette cloison qui était très stricte, notamment pour des raisons technologiques, il y a quelques années, entre le son et l'image, ces cloisons sont un peu en train de s'effacer. Elles ne vont pas disparaître totalement, c'est pour ça qu'encore une fois, il faut garder les entités existantes, mais on ne peut plus vivre dans deux mondes complètement clos en disant l'image et le son...
Notre débat est filmé,
exactement,
mais ça n'en fait pas de la télévision pour autant.
Ça n'empêche pas que la majorité de ceux qui nous écoutent par le son, et
encore,
que le son continue de dominer. L'image est simplement à l'appui, mais je ne vois pas pourquoi le rapprochement entre ces différents modes de communication impliquerait des conséquences administratives avec toutes les formidables lourdeurs que cela représenterait.
Beaucoup vont nous écouter, non seulement peut-être effectivement à travers la radio, mais aussi à travers leur iPhone, en regardant l'image comme le son. Donc on voit bien que les choses évoluent. Pour revenir sur pourquoi ne continuent pas les coopérations comme on le fait actuellement, Parce qu'on le voit bien à travers les conventions d'objectifs et de moyens que vous avez indiquées tout à l'heure. Parce qu'on voit bien que ça avance difficilement, que c'est compliqué, que c'est assez chronophage d'ailleurs au point de vue temps, parce que finalement ces coopérations ne sont pas structurées, organisées. C'est tout le sens de la démarche, c'est d'arriver à mieux organiser pour que ça soit plus fluide.
Vous êtes favorable à la holding. Il semblerait que Rachida Dati et Emmanuel Macron penchent plutôt pour la fusion. Ça, vous pouvez nous le confirmer, Laurent Lafon?
Oui, écoutez, c'est un secret pour personne. Effectivement, il y a un débat.
Et ce serait une erreur d'aller à la fusion?
Moi, je pense que ça serait une erreur de confondre vitesse et précipitation. Voilà.
Donc vous nous dites que finalement, vitesse et précipitation, la vitesse conduira un jour, évidemment, à faire une fusion. Franchement, vous croyez sérieusement qu'on va s'arrêter à la holding quand il y aura une gouvernance commune?
Je n'en sais rien, je ne connais pas l'histoire. Vous qui êtes un historien, vous savez que l'histoire n'est pas écrite par avance. Je ne connais pas l'histoire. Je dis qu'il faut avancer dans le sens des coopérations et qu'il faut créer cette holding. C'est pas une idée nouvelle, encore une fois. Ça fait plusieurs années qu'on y réfléchit, qu'on y travaille. Je sens que le fruit est mûr sur cette holding. Voilà, et je dis attention, n'allons pas trop vite, la question de la fusion ne se pose pas aujourd'hui.
Et le fait que 5 anciens ministres de la Culture, dont Roselyne Bachelot, et Rima Abdul-Malak, se soient opposés à cette réforme devant l'Assemblée nationale, ça ne vous pose pas question, Laurent Lafon?
Non, ils et elles se sont exprimés dans le cadre du débat et c'est tout à fait normal qu'ils le font aussi. On aurait pu trouver d'autres ministres de la Culture qui, eux, sont favorables à l'holding. Je pense en particulier à Franck Riester qui avait déposé un projet de loi assez proche de la proposition de loi que je défends.
La Covid a permis d'en triompher. Quelque chose, malheur est bon.
Et la période du Covid est terminée, c'est pour ça qu'on peut reprendre le sujet maintenant.
Et vous pensez, Jean-Noël Jeannet, que ce projet va se faire? Parce que effectivement, Laurent Lafon le dit à l'instant, c'est un vieux serpent de mer. Une BBC à la française, comme on dit maintenant, ça va se faire?
Comme M. Lafon vient de le dire, c'est un économètre qui parle à un historien. L'historien, peut-être n'est-ce pas un hasard d'ailleurs que vous soyez économètre, c'est une vision plus abstraite des choses que l'historien qui a tendance à voir la réalité, qui est peut-être mieux à même de voir la réalité profonde des individus, des comportements, des sociologies. Et à cet égard, je ne sais pas du tout quel est l'avenir, mais je suis très inquiet, parce que quand on aura passé un cran, alors je crois que le boulevard s'ouvrira vers cette chose très néfaste qui sera l'arasement des différences, la fin des spécificités qui font, encore une fois, la force de nos maisons, qu'elles travaillent ensemble, bien sûr, mais qu'elles travaillent séparément, avec énergie, avec leur enthousiasme propre. J'ajoute que la gestion même des personnels sera différente. On passera tous dans l'obligation d'un système commun, alors qu'il vaut beaucoup mieux s'adapter aux spécificités originales de chaque entreprise. Toujours une question de souplesse, ça marche bien, ne cassons pas les choses.
Merci à tous les deux. Jean-Noël Jeannet, historien, ancien PDG de Radio France, producteur de Concordance des temps, qu'on peut écouter en linéaire ou en podcast.
Pas en image.
Laurent Lafon, sénateur Union Centriste du Val-de-Marne et membre du conseil d'administration de Radio France. Merci pour ce débat et à suivre l'invité de Léa aujourd'hui, Virginie Grimaldi. Me apart. Michael Kiwanuka sur Inter. Il est 9h25.
France Inter. Le 7-10.
Et Léa, ce matin, vous recevez une romancière.
Oui, quelle romancière. Bonjour Virginie Grimaldi.
Bonjour Léa.
Si vous étiez une ville, un personnage historique et un défaut, vous seriez qui, vous seriez quoi ?
Je serais Bordeaux et ses chocolatines.
Ouais.
Je serais l'impatience et je serais, c'était le troisième personnage historique.
Quoi.
Un peu cliché, mais Simone Veil.
Pourquoi ?
Bah pour son courage, pour ce qu'elle a fait pour les femmes, essentiellement avec la vie qu'elle avait eue.
Plus profondément, le chagrin creusera votre être, plus vous pourrez contenir de joie. C'est votre proverbe, votre citation préférée qui vient de Khalil Gibran. Je ne sais pas comment on le prononce en français, Khalil Gibran. Pourquoi vous aimez cette phrase ?
J'aime cette phrase parce que j'y crois profondément, même si je ne suis pas de ceux qui disent que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Je suis persuadée que ça nous abîme. Mais je crois aussi que quand on a vécu des épreuves, on voit les choses différemment, on voit l'urgence qu'on a de vivre, on comprend que la vie s'arrête un jour et tout est plus fort. J'ai le sentiment que tout est plus fort.
Et qu'il y a la place aussi pour la joie.
Et qu'il y a... Oh oui, ça j'en suis persuadée. Mmh. Qu'il y a la place, qu'elle revient un jour.
Mais vous dites quand même la phrase de Nietzsche, éculée à l'envie qu'on n'en peut plus d'entendre, ce qui ne te rend pas, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Vous dites que c'est pas vrai en fait.
Ben, je crois pas parce que...
Ce qui ne te tue pas t'abîme.
En tout cas. Mon expérience personnelle, c'est ça. C'est que ça abîme quand même, ça laisse des cicatrices qui nous diminuent un petit peu, mais qu'on peut trouver de la joie ailleurs. Et en même temps, je suis pas... de plus je vieillis, plus je me dis que c'est pas très grave si on n'est pas joyeux tout le temps, si on n'est pas heureux tout le temps. J'ai été dans cette quête du bonheur absolu pendant longtemps, et maintenant je m'autorise à pas aller bien s'il y a des moments où je vais pas bien. C'est pas très grave.
Virginie Grimaldi, vous êtes aujourd'hui la romancière la plus lue de France. Vous avez vendu plus de 7 millions d'exemplaires en 10 ans et 9 romans. Les chiffres donnent le vertige. Vous avez aussi été récompensée comme l'auteur du livre favori des Français en 2022 par France Télévisions. Et vous sortez aujourd'hui votre 10e roman, Plus grand que le ciel, chez Flammarion. Sans conteste, le plus personnel, le plus intime, vous le dites. Qu'est-ce que vos lecteurs, qui sont pour beaucoup des lectrices, vont apprendre qu'ils ne savaient pas sur vous ?
Mais je sais pas, parce qu'à chaque fois je suis étonnée d'avoir encore des choses à raconter, mais j'ai l'impression que je vais puiser de plus en plus profond. Celui-ci fait suite au décès de mon père, qui est décédé il y a quelques mois, et en réalité ça devait pas être un roman, c'était comme une conversation avec lui au départ. Je prolongeais notre relation en lui écrivant tous les jours, puis je crois que c'était trop douloureux, donc j'ai rajouté des personnages, mais ça s'est fait, c'était pas calculé, j'avais pas calculé cette histoire de rencontre entre deux personnes.
C'est l'histoire d'une rencontre entre Elsa, conseillère funéraire qui vient de perdre son père et qui ploie sous le chagrin, et de Vincent, romancier à succès quelque peu névrosé, et qui se rencontre chez
le psy.
Chez
la salle d'attente du psy. Je trouvais ça cocasse, parce que parfois on croise des personnes chez les psys et puis on se dit, ça serait drôle de... Ou alors on n'a pas du tout envie.
Et là, on n'a pas envie, elle n'a pas, pas envie de croiser ce type tout le temps, non. Avant elle ou après elle.
Elle n'a pas envie de croiser qui que ce soit, elle a envie d'être seule dans la salle d'attente à préparer son rendez-vous. Mais lui, il a envie de parler, et voilà, leur relation commence comme ça.
Diriez-vous qu'il y a beaucoup de vous dans les deux personnages, à la fois celui d'Elsa, qui est triste et très triste parce qu'elle vient de perdre son père, et dans celui de Vincent, ce romancier à succès qui n'est pas apaisé par le succès. Est-ce que vous diriez qu'il y a de vous chez les deux, et que c'est au fond un livre à la fois sur le succès, comment on le gère, et sur la mort, comment on la gère ou pas?
Ouais, je crois que c'est un très bon résumé. Il y a de moi dans les deux. C'est le livre dans lequel il y a le plus de moi. Je me suis servi de mon expérience dans le deuil et dans l'écriture. Parce que c'est aussi, ça parle pas que du succès, ça parle de l'écriture, ça parle du rapport au lecteur, de cette nécessité d'écrire. Enfin, moi, je la vis vraiment comme ça. Et là, pour ce livre-là, ça a été, c'était nécessaire tous les matins. C'est ce qui me faisait me lever. Donc, ça parle de tout ça. Et c'est vrai que je me suis servi des petites anecdotes que j'ai rencontrées depuis 10 ans pour créer le personnage de Vincent.
On va y venir au lecteur et au petit milieu littéraire que vous brossez dans ce livre-là. Mais sur le chagrin, qui est la grande partie du livre, guérit-on du chagrin de voir partir son père, surtout quand on est une fille ?
Bah, je n'ai pas encore l'expérience sur la durée, puisque ça fait juste 9 mois. J'ai le sentiment que c'est toujours aussi fort, que la douleur est toujours aussi intense quand elle me prend. J'ai l'impression que ça m'ouvre la poitrine en deux et que je ne vais jamais me relever. Peut-être c'est moins souvent, et peut-être que c'est ça en fait, c'est que c'est toujours aussi fort, et c'est ce que dit Elsa d'ailleurs dans le livre, c'est toujours aussi fort, mais c'est moins souvent. Mmh. Mais je ne sais pas comment on cohabite avec l'absence, j'y arrive pas encore.
Écoutez Nina Bouraoui, qu'on recevait en octobre dernier à ce micro, elle venait elle aussi de perdre son père.
Et elle a écrit un très beau livre, Grand Seigneur,
sur son père, ouais. Écoutez-la.
On ne sait pas ce que la mort d'un père peut engendrer. Évidemment, dans notre entourage, il y a des filles qui ont perdu leur père, parfois assez jeunes, et on dit « je comprends », mais en fait, tant que ça n'est pas arrivé, on ne comprend pas. Un père, on pense que c'est la mère qui élève plus les enfants, mais non, un père laisse des traces, peut-être invisibles, mais qui sont extrêmement... Moi, je pense que mon père m'a construite.
Oui. Vous êtes d'accord avec elle,
j'étais sûre. Je suis totalement
d'accord avec elle, oui. Et c'est malheureux parce que c'est à la fin de sa vie, et c'est même maintenant qu'il n'est plus là, que je me rends compte tout ce que j'ai hérité de lui. Son humour, c'était notre langage, l'humour. Mais aussi, je le vois maintenant qu'il n'est plus là. C'est-à-dire que je le voyais, il était sous mes yeux. Mais je n'avais pas conscience de ses qualités, de la personne qu'il était, réellement de l'homme qu'il était. Je le vois en tant qu'homme, maintenant que mon papa n'est plus là.
Votre enfance a été marquée par le divorce de vos parents quand vous aviez 11 ans. Et vous qui étiez timide et réservée, vous êtes mis à être drôle, à faire le clown pour faire marrer votre père, qui était terrassé par le chagrin de voir sa femme partir, votre mère partir.
Oui.
Et c'est quelque chose qui a construit votre relation au père, l'idée de toujours devoir le sortir de sa mélancolie, de le faire rire, de le faire sourire, de le sortir de ses tourments. Vous parlez aussi de l'alcoolisme de votre père. C'est quelque chose qui a été votre rôle, au fond.
J'ai passé une adolescence à essayer de rendre la joie, de redonner la joie à mon père. C'était un homme assez malheureux, qui s'est jamais remis du chagrin de perdre sa femme, qu'il a perdue à cause de l'alcool. Hein, et il a complètement plongé dans l'alcool. Donc j'ai même passé un pacte avec lui. Quand j'étais en troisième, je suis allée vivre chez lui la moitié du temps. Et en échange, il devait arrêter de boire. Il n'y en a qu'un des deux qui a tenu sa part du contrat.
Ouais. Il planquait les bouteilles
dans le bac à linge sale. Enfin, voilà. Mais c'est une maladie, je ne l'en veux pas du tout. C'est vraiment, je sais qu'il a déployé des efforts incommensurables pour s'en sortir. C'était vraiment plus fort que lui. Il a fait de son mieux et c'était un super papa. Et c'était quelqu'un d'extrêmement drôle. Donc, en effet, on a créé ce langage qui m'est resté. Je suis toujours à faire des vannes, toujours dans l'humour. Et puis il m'a apporté plein d'autres choses aussi. Il avait une grande liberté. Et c'est quelque chose qu'il a perdu à la fin de sa vie. Et c'est,
à cause de la maladie ?
Ouais. Il avait la maladie d'Alzheimer. Il l'a eu très jeune puisqu'il est décédé à 69 ans. Et ça l'a privé vraiment de toute sa liberté. Et il était complètement enfermé dans sa maladie. Et ça, c'est terrible de voir quelqu'un perdre sa liberté. C'est là que je me suis rendu compte à quel point il était libre avant.
Leïla Slimani explique qu'elle écrit pour venger son père qui avait souffert du déclassement. Il était économiste, gouverneur de grandes banques au Maroc. Et puis un jour, il a perdu son travail. Et pendant 15 ans, il attendait à côté de son téléphone que le téléphone sonne, et le téléphone ne sonnait pas. Et elle dit « J'écris pour venger mon père ». Et vous écrivez pourquoi ?
Alors moi, j'écris pour... je crois que j'écris pour figer le temps. Parce que le temps qui passe, c'est mon plus grand sujet.
C'est votre plus grande angoisse.
Ah oui, vraiment. Vraiment. C'est quelque chose. Tous les matins, je me lève en me disant déjà. c'est quelque chose qui me terrifie. Surtout depuis que je suis mère.
C'est quoi? C'est la vieillesse qui vous angoisse?
Non, du tout. C'est le fait que c'est bien quand même d'être là et que ça va s'arrêter et que ça passe trop vite. Et puis, les moments qu'on aime, j'ai l'impression là jusqu'à l'été dernier, de vivre quand même une des meilleures parties de ma vie. J'avais encore mes parents, j'avais mes enfants en bas âge. Et puis, ça va s'arrêter. Et je suis toujours dans cette nostalgie un petit peu du temps présent.
Il y a une réflexion sur la mort dans ce livre. Vous dites, on devrait plus s'y préparer, je vous le lis. Mmh. On n'envisage pas réellement notre propre mort. On y pense comme à un pays lointain. On angoisse parfois quand on effleure cet inévitable, mais on le recouvre d'un mouchoir. Or, on devrait nous enseigner qu'on va mourir comme on nous enseigne le théorème de Pythagore.
Oui, je crois. crois qu'on parle pas assez. C'est un tabou, la mort. Et quand on y est confronté, tout à coup, on est sidéré parce que on se dit que ça va pas arriver. Sauf que ça arrive et ça arrive à tout le monde. C'est vraiment tellement cliché de dire ça. Mais quand on y est confronté, ça devient une réalité insupportable. Je sais pas si on peut s'y préparer, cela dit. Je crois que je m'y prépare depuis que je suis née parce que je suis très angoissée par ça.
Ça, on comprend, on l'entend, en tout cas. La loi de fin de vie qui arrive à l'Assemblée nationale, vous y êtes favorable?
Bien sûr. Et je trouve qu'elle devrait aller plus loin. Je trouve qu'on est très en retard. Ce qui me chagrine un petit peu, c'est que ça arrivera un jour et qu'il y aura toutes ces personnes qui auront souffert sans y avoir droit.
Oui. Et notamment les malades d'Alzheimer, parce qu'elle ne visera pas les malades d'Alzheimer.
Non, c'est encore exclu. Ouais.
Ce livre, c'est aussi un livre sur le monde littéraire. Donc, à travers ce personnage de Vincent, ce romancier à succès névrosé, vous racontez des choses sur le milieu littéraire qui créent beaucoup de fantasmes. Qu'est-ce qui vous a, vous, depuis 10 ans que vous connaissez ce petit milieu avec ses petits codes, qui vous a le plus étonné, surprise, choqué dans ce petit milieu que vous trouvez ridicule?
Alors, que je trouve ridicule, je ne sais pas. J'ai été étonnée de voir que finalement, tous les fantasmes n'étaient pas forcément réels. Je m'attendais à trouver un monde complètement différent du mien, et puis finalement il est composé d'humains tout à fait normaux. Après, j'ai été confrontée assez récemment, il y a beaucoup de choses politiques et de choses de pouvoir, en fait, qui régissent quand même ce milieu-là.
Vincent va claquer la porte de sa maison d'édition rachetée par un homme puissant. Il part avec son éditrice dans une autre maison. On ne peut pas s'empêcher de penser à ce que vous avez fait vous-même, puisque vous avez claqué la porte de Fayard rachetée par Vincent Bolloré. Et vous êtes partie avec votre éditrice sous le bras, ou alors elle est partie avec vous sous le bras, plutôt, qui s'appelle Sophie de Closet.
Ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Elle est partie avant moi pour des raisons que je ne cautionnais pas. Et en fait, l'arrivée de Vincent Bolloré et d'Isabelle Saporta à la tête de Fayard et tout ce qui l'entourait, c'est-à-dire que j'ai vu quand même des têtes de journalistes tomber avec l'arrivée de Monsieur Bolloré, et j'étais en position de ne pas accepter ça, de montrer que j'étais pas d'accord.
Et vous l'avez montré.
Et je l'ai montré.
C'était quoi, un acte politique, un acte citoyen?
Moi, c'était pour être droite dans mes bottes.
Il y a une scène où un écrivain se gausse d'avoir eu 3 T dans Télérama. Est-ce que vous aimeriez un jour avoir 3 T dans Télérama, même un seul T dans Télérama, même être mentionné dans Télérama?
Non, c'est vraiment pas une fin en soi. Quand je suis passée au Masque et la Plume, quand j'ai appris que j'allais y passer, j'ai fait merde, parce que je savais qu'ils allaient pas m'épargner. En effet, ils se sont fait plaisir.
Ça vous blesse, le petit mépris pour la littérature populaire? Vous vendez des millions et des millions de romans. Et il y a, oui, le petit milieu littéraire. Enfin, ils ont le droit aussi de ne pas aimer vos livres.
Je crois qu'ils sont sincères. Ils n'aiment pas mes livres. Ils ont tout à fait le droit de ne pas aimer mes livres. Après, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a aussi des journalistes qui n'avaient pas envie de me lire et qui finissent par me lire et par reconnaître que c'est pas si mal. Mais après, je comprends tout à fait qu'on puisse ne pas aimer. Ce qui me blesse, ça va être le mépris, et c'est ce que Vincent dit, la même chose, le mépris envers les lecteurs. Mais parce que c'est une forme de classisme aussi. Ça m'a blessé peut-être
mépris
plus
de classe,
au début.
Le classisme, ouais. C'est un mépris de classe,
oui,
pour
crois.
Vous ils aiment la littérature.
Oui, je crois, il y a une journaliste une fois qui m'a dit « tu donnes de la confiture aux cochons ». Donc si ça c'est pas un mépris de classe, je sais pas ce que c'est.
À un moment Vincent dit tout le monde pense que le succès donne confiance en soi, c'est tout le contraire. Alors là je vous crois pas.
Non, ouais.
Vous devriez venir me voir chez moi. Le succès ne donne pas confiance en soi.
Non parce que par rapport au lecteur, non, parce que il y a de plus en plus de personnes qui attendent les livres et donc il y a une grande peur de les décevoir. Après, dans ma vie intime, perso, ça m'a quand même donné un petit peu plus confiance en moi. Je pars de très très bas et disons que je me sens à ma place. Et moi qui me suis toujours sentie un petit peu différente, j'étais une ado un peu à part, avec mes angoisses, ma sensibilité, ça m'a donné, en tout cas une raison d'être.
Les impromptus pour terminer, vous répondez rapidement sans trop réfléchir. Okay. Instagram ou Twitter?
Instagram.
Romain Gary ou Stéphane Zweig?
Romain Gary.
Que vous avez eu du mal, vous avez dit j'ai raté mon rendez-vous avec Gary j'étais au collège, oui. J'y suis pas arrivée.
Non, j'ai
et aujourd'hui
pas aimé.
C'est votre livre préféré,
La vie devant soi, oui.
Édouard Louis ou Nicolas Mathieu?
Ah,
vous pouvez dire ni l'un ni l'autre. Hein,
les
deux.
Ouais.
Vous prenez les deux.
Ouais, je prends les deux, mais j'aime particulièrement le discours de Nicolas Mathieu. Je suis assez d'accord avec les points qu'il défend.
Qu'est-ce qui vous indigne?
Les injustices sociales. Je viens d'un milieu où il y a beaucoup d'injustices. Et maintenant que je suis passée de l'autre côté, je les vois encore plus.
Vous votez ?
Oui, bien sûr.
Amélie Nothomb, Virginie Despentes ?
J'aime beaucoup Amélie, mais Despentes.
Houellebecq ou Carrère ?
Carrère.
Balzac ou Stendhal ?
Balzac.
La dernière fois que vous avez pleuré ?
Ce matin.
Pourquoi ?
Parce que j'ai pensé à mon père.
Vous avez déjà menti en disant que vous aviez lu un livre que vous n'avez jamais lu ?
Oui.
Plein de fois. Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez quoi ?
Égalité.
Et Dieu dans tout ça ?
Et Dieu, j'aimerais y croire, parce que ça voudrait dire qu'il y a vraiment qu'on retrouve les gens qu'on aime un jour, mais je n'y crois plus.
Plus grand que le ciel, c'est votre 10e roman, Virginie Grimaldi, qui sort le 1er mai, donc dans 2 jours, chez Flammarion, et qui a en exergue Boris Vian, berceuse pour les ours qui ne sont pas là. Je voudrais que tu sois là, que tu frappes à ma porte et tu me dirais, c'est moi, devine ce que je t'apporte, et tu m'apporterais toi. Merci et belle journée.
Merci à vous.
Et à suivre avant 10h, Cyril Lacarrière, Elisabeth Philippe, Mathilde Serrel, bonjour.
Bonjour.
Édito Média, Cyril.
L'animateur qui sera partout la saison prochaine sur France Télé.
Édito Culture, Elisabeth.
Qui sont les impressionnistes d'aujourd'hui ?
Nouvelle tête, Mathilde.
On va faire trompette.
Tout de suite, le choix musical du 7-10 avec un groupe qui remet les yéyés au goût du jour, Junior, et leur nouveau single, Le Silence.
À quoi tu penses ? Tu penses à moi qui pense à toi ? Dans ce silence, est-ce que tu penses parfois ? Quand le vide est si dense, qu'il ne désemplit pas. À force de prudence, ça risque de jeter un froid. Est-ce que tu penses sans langue de bois ? Quand le crépuscule est immense, la distance on s'habituera, et l'absence tu prends, et le chacun pour soi, avant la prochaine séquence, le prochain faux pas. À quoi tu penses? À quoi tu penses? Si je m'avance, renoncer tout et n'importe quoi, balancer l'indifférence, la crise de foi. Est-ce que tu flanches? Tu penses à moi qui pense à toi. Vers quoi tu penches pour revoir l'envers à l'endroit? Quand la nuit est si blanche qu'elle ne dégrise pas.
Junior en tournée cet été, il est 9h44.
France Inter. Le 7-10.
Et c'est l'édito média, Cyril Lacarrière, ce matin. Vous nous parlez de l'étoile montante de France Télé.
Et oui, l'année prochaine, il sera partout. Le midi sur France 2, l'après-midi sur France 3, dans 6 émissions diffusées en prime time sur les deux chaînes. Cet été, il reprend son personnage dans la nouvelle saison de Fort Boyard. Tout ça, même pas 40 ans, il cumule déjà les mandats. Cyril Ferraud sera bien partout sur France Télévisions. Alors si je vous parle de lui ce matin, c'est que l'animateur va reprendre la présentation de Tout le monde veut prendre sa place. Il l'a prise d'ailleurs à Nagui, à Laurence Boccolini et à Jarry. Seule concession faite quand même. Pour avoir le job, Cyril Ferraud va lâcher le jeu Slam, un jeu qu'il présente depuis déjà 15 ans.
Comment vous expliquer l'omniprésence et le succès de ce présentateur?
Ça, c'est vous qui le dites. Eh bien,
c'est moi
déjà,
qui le dis.
Il est sympa, Cyril Féraud.
Oui, il est super sympa.
Il a la cote chez les téléspectateurs de France 2 et de France 3. Alors, c'est une autre manière de dire qu'il a la cote chez les vieux.
Alors, je suis vieille.
Oui. C'est pas méchant, d'ailleurs. Moi, j'ai la cote chez les bouchers, chez les bûcherons. On a chacun son public. Cyril Féraud, aussi, c'est le guy next door, le voisin de palier. Un type avec qui on passe un bon moment, qui fait rire sans mettre mal à l'aise, qui fait parfois une blague un peu olé-olé, mais qui n'est jamais vulgaire. Et c'est un profil prisé en télé. Donc, quand une chaîne en tient, elle lui fait tout faire, surtout des jeux, surtout des émissions de divertissement d'ailleurs.
Et pourquoi ça ?
Eh bien parce que ces formats à la télé sont devenus moins importants que la personne qui les présente. Il y en a de plus en plus, à toutes les heures, sur toutes les chaînes. Personne ne sait plus faire la différence entre les uns et les autres, mais les téléspectateurs regardent parce que l'animateur est sympa. En plus, le poste de télé, le midi ou l'après-midi, c'est souvent un truc qu'on laisse en fond dans la maison. C'est de la télé de compagnie pour les Français qui sont chez eux. Dans ce contexte, un Cyril Féraud à l'écran, c'est comme si c'était un copain qui était dans la pièce.
Contexte qui dit aussi beaucoup de la télé d'aujourd'hui, selon vous.
Eh bien, c'est de la télé qui gère pépère, de la télé qui ne fait pas de vagues et aussi de la télé qui ne se diversifie pas. Le problème de confier 250 émissions à Cyril Féraud, c'est que la télé s'enferme dans un cercle vicieux. Les téléspectateurs adoptent un animateur, ils le suivent partout, comme ils le suivent les chaînes, le programme tout le temps. Du coup, on tourne en rond et la télé manque de nouvelles têtes. Et tant que j'y suis, elle manque de diversité. Je vous parlais de ces guys next door. Eh bien, à la télé, ils ont tous un point commun, ils sont blancs. Or, nos voisins, ils sont aussi noirs, maghrébins, asiatiques. Alors, c'est pas la faute de Cyril Féraud, c'est juste le signe d'une télé qui s'encroûte, qui ne ressemble pas à la société française. Du coup, la télé ne parle plus qu'à une partie de la population et les jeunes la désertent.
Cyril Lacarrière, merci. Il est 9h46, Elisabeth Philippe, c'est l'édito culture. Aujourd'hui, et une fois n'est pas coutume, vous vous posez une question existentielle.
Oui, vous l'avez sans doute remarqué, ou alors je m'inquiète un peu pour votre sens de l'observation. On célèbre cette année les 150 ans de l'impressionnisme. Le 15 avril 1874 s'ouvrait en effet la première exposition organisée par des peintres exclus du salon officiel. Parmi eux, Claude Monet, Berthe Morisot, Auguste Renoir, Paul Cézanne ou encore Camille Pissarro. Dans l'ancien atelier du photographe Nadar, cette petite bande avait organisé une sorte de contre-salon dissident et avant-gardiste où le public pouvait admirer leurs toiles à la touche enlevée, souvent peinte en plein air, les danseuses de Degas, une Parisienne vêtue de bleu sur fond bleu, croquée par Renoir, une Olympia revue et corrigée par Cézanne, et bien sûr, Impression, soleil levant de Monet, une vue du port du Havre diluée dans un miroitement gris et orange. 150 ans après leur coup d'éclat, le clan des révoltés est devenu un club de superstars de l'art. Le bal du Moulin de la Galette ou les coquelicots de Monet, leurs tableaux sont désormais des cartes postales, des best-sellers des boutiques de musées et des incontournables des salles d'attente des médecins. Bref, les rebelles d'hier sont les classiques d'aujourd'hui, et pour leur 150e anniversaire, ils ont droit non seulement à une grande exposition au musée d'Orsay à Paris, mais aussi à nombreux événements un peu partout en France, de Tourcoing à Montpellier. Ce qui m'amène à me poser cette question angoissante, est-ce qu'on ne préfère pas toujours les peintres morts aux peintres vivants ? Pour reprendre le titre du fameux essai de Charles Baudelaire, qui sont aujourd'hui les peintres de la vie moderne ? Où sont-ils ? Où voir leur travail ?
Et alors, vous avez trouvé des réponses à vos questions ?
Oui, et figurez-vous que je les ai trouvées sur Twitch.
Eh bien, bonsoir à tous. Je fais ce Twitch où j'invite des peintres de la scène française vivants. On est la 24e heure, c'est complètement fou. Et mon petit frère Nils, qui réalise le Twitch, a mis 24 fois pour m'apprendre qu'il fallait pas dire « je fais ce Twitch », mais « je fais ce live sur Twitch ». Parce qu'évidemment, c'est comme si j'étais d'accord, vraiment un vieux ringard et que je disais « je fais ce Facebook ».
Alors, le vieux ringard qui anime cette émission baptisée « Les apparences » sur la plateforme Twitch, c'est Thomas Levillan, oui, un peintre bien d'aujourd'hui, bien vivant. Quand les impressionnistes innovaient, voire choquaient en faisant figurer sur leurs toiles des chemins de fer ou des cheminées d'usine, Levillan, lui, s'est fait connaître avec ses tableaux hyper réalistes représentant des scènes de fête, avec des tables couvertes de bouteilles, de mégots et de chips dans des assiettes en carton. On peut d'ailleurs voir jusqu'au 11 mai certaines de ses œuvres à la galerie Les Filles du Calvaire à Paris. Dans Les Apparences, donc, chaque dimanche en direct à 18h, Thomas Levillan donne la parole pendant une heure à des artistes. Et parmi celles et ceux qu'il a reçus jusqu'à présent, on peut citer Nathanaël Herbelin. Cette peintre franco-israélienne s'inspire davantage des nabis et de leur palette intimiste que des impressionnistes. Mais on peut actuellement découvrir certains de ses tableaux au musée d'Orsay, au sein d'une exposition baptisée
disait « Être ici est une splendeur ». Ses œuvres qui mettent en scène notamment une femme qui s'épile ou un homme en caleçon devant son écran d'ordinateur se trouvent mises en regard avec des toiles de peintres du début du XXe siècle comme Pierre Bonnard, Édouard Vuillard ou encore Félix Vallotton. Donc quand vous irez à Orsay admirer les toiles de Monet, n'hésitez pas à faire un petit détour par le premier étage pour découvrir le travail sensible, drôle et délicat de Nathanaël Herbelin, exposé jusqu'au 30 juin.
Nathanaël Herbelin, que vous pouvez aussi réécouter au micro d'Eva Bester sur le site de France Inter. Merci Elisabeth et à lundi prochain. Il est 9h50, les nouvelles têtes, Mathilde Serrel. Ce matin, une nouvelle plume, Trempée de soleil, le romancier Rémi Baille est dans notre studio. Portrait sonore.
Les flanflans, les airs démodés, une orange pressée.
Il a passé une enfance vue sur mer, à Toulon. Il a regardé tellement la mer que ça le mettait en retard le matin pour aller à l'école. Sa première vocation, ce ne sera pas pêcheur pour autant, mais cascadeur, comme le légendaire Rémi Julienne.
Pour une cascade qui va durer quelques secondes à l'écran, ou à la rigueur une minute, une action habile qui durera une minute, 10 minutes dans un fil peuvent demander 3 semaines de préparation.
Finalement, il optera pour des acrobaties plus théoriques. Élève à Sciences Po, étudiant en philo, c'est à 21 ans qu'il a une révélation devant la mer, à Beyrouth. Il comprend que la Méditerranée est le centre de son monde. Il se promet alors de la remercier un jour dans un texte, même si, avec noces, Albert Camus a mis la barre très très haut.
Ce soleil, cette mer, mon cœur bondissant de jeunesse, mon corps au goût de sel et l'immense décor où la tendresse et la gloire se rencontrent dans le jaune et le bleu. C'est à conquérir cela qu'il me faut appliquer ma force et mes ressources. Tout ici me laisse intact. Je n'abandonne rien de moi-même. Je ne revais aucun masque. Il me suffit d'apprendre patiemment la difficile science de vivre qui vaut bien tout leur savoir-vivre.
Il a 23 ans, Camus, quand il écrit ses lignes. Ça peut inhiber un peu. Un romancier en herbe. Sans compter les tutos sur YouTube, type comment écrire son premier roman, qui ont failli le décourager définitivement. Mais il trouvera finalement l'élan en s'installant à Marseille.
Italien, corse, arménien, espagnol ou portugais, mais aussi chinois ou africain. Ici, se sont installés tous les peuples du monde, réfugiés presque enfermés dans ce quartier, au nom prédestiné, le Panier.
C'est dans le quartier du Panier qu'il a enfin pu écrire son roman solaire. Collaborateur d'Aix-Marseille Université, cofondateur de la revue littéraire L'Allume-feu, membre du comité de rédaction de la revue Esprit, il publie à 31 ans Les Enfants de la Crique, une vraie baignade philosophique. Rémi Baille, bonjour.
Bonjour et merci.
Vous n'avez pas eu le temps de vous baigner du coup ce matin?
Pas vraiment, mais bon, on s'y fait.
Je peux vous le confirmer. Vous êtes finaliste du prix Marcel Pagnol, célébré 50 ans après sa disparition dans une multitude d'événements. Il représente quoi pour vous?
Marcel Pagnol, c'est les premières lectures. Déjà, la connaissance, l'accès au style, puisqu'on parle peu du style de Marcel Pagnol. Et ce sont les étés interminables, les aventures, et aussi une douce gravité bien méditerranéenne que j'apprécie beaucoup.
C'est le provençal universel, dit-on, vous êtes d'accord?
Ouais, complètement. Bah, de toute façon, provençal, méditerranéen, il y a quelque chose d'universel là-dedans, dans ce qui travaille derrière, dans les questionnements, dans ces paradoxes. Je les trouve absolument universels parce que il y a du beau, du grave, du doute dans tout ça et... Tout ça est universel.
Des sanglots de soleil, comme chez Camus. C'est un très beau roman solaire, Les Enfants de la Crique. Vous l'avez écrit donc à Marseille. Vous le publiez aux éditions Le Bruit du Monde, qui sont basées à Marseille. Pourquoi l'écriture ne pouvait se faire que dans cet ancrage Marseille, Rémi Baille.
Je pense que déjà, il fallait à un moment changer de vie, se dire que je partais pour écrire. J'étais avant à Paris, à la maison de la radio d'ailleurs.
Ouais, on vous a croisé à France Culture.
Et il y avait une nécessité de dire rentrer à la maison, pourquoi faire la maison dans sa conception un peu maximale, qui n'était pas forcément l'endroit où j'ai grandi, mais la mer, l'horizon, en fait, vécu comme maison. Et puis, partir aussi pour, un moment, avoir la nécessité de faire quelque chose. Vous parliez tout à l'heure dans le portrait de rendre l'appareil. Je voulais faire un contre-don, c'est-à-dire donner en retour des choses de la Méditerranée. Alors, il fallait être très, très proche des choses, des gens, des images, des couleurs pour le faire, je pense.
Au plus près de la Méditerranée, c'est ce qui compte pour vous. Et vous l'avez compris, à Beyrouth, du coup.
Oui.
Pourquoi? Parce que enfin, comment?
J'ai fait une année d'échange à Beyrouth et en fait, je me sentais tellement proche de la des gens, de cette vie sur le dehors, la terrasse, les discussions, les portes ouvertes, les repas partagés. Et je me suis dit, mais pourquoi je me sens directement si proche, pourquoi j'ai déjà certains de ces codes-là. Et j'étais en retard enfant parce que je regardais la mer. Là, je regardais aussi la mer de Beyrouth en me disant que de l'autre côté, il y avait ma maison pour le coup, alors que je me sentais déjà pas mal chez moi au Liban. Alors j'ai compris tout d'un coup qu'il y avait quelque chose de la Méditerranée dans mon existence, dans mes possibles, dans mon ouverture au monde, et j'y suis bien.
Et vous y écrivez bien dans Les Enfants de la Crique. Le soleil fait le cador, la mer tient l'affiche. Et cette crique, elle est imaginaire, elle est faite de vos souvenirs à vous. C'est le personnage principal du roman. Pour vous, l'enjeu, c'était que le rapport à la nature, les sensations, on parlait de Camus tout à l'heure, qu'elle inspire, soit un élément romanesque suffisant. Finalement, presque, c'est ça, votre roman, c'est une proposition où la nature, c'est l'intrigue.
Oui, parce qu'en fait, la crique, à un moment, un personnage qui s'appelle Coco dit « la crique, c'est tout à la fois ». Et en fait, c'est cette correspondance entre les gens qui vivent et leur milieu. Voilà, je pense que je voulais écrire sur le rapport au milieu. Et cette crique, finalement, c'est l'endroit où se rencontre cette roche taillée, cette mer avec son bleu infini, le vent qui vient un peu mettre tout le monde en l'air parfois. Ouais. Et ce soleil.
Les incendies aussi, c'est pas non plus une nature idyllique. Il y a le réchauffement climatique qui arrive dans la crique.
Exactement. Il y a de toute façon, pour écrire sur la Méditerranée, la volonté de pas écrire de manière béate et de dire qu'en Méditerranée, ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est que les changements globaux en Méditerranée sont plus rapides là-bas qu'ailleurs. Et je voulais marquer la preuve de cela dans l'idée que cette crique, qui est souvent un secret en fait, c'est un coin, une crique, c'est un endroit qu'on protège, qu'on préserve, parfois qu'on garde pour soi. Et ces lieux-là sont menacés. Et je voulais juste raconter comment est-ce qu'un village de pêcheurs qui s'était construit autour de cette villa faisait pour vivre ce changement en train de se faire.
C'est une république, votre crique, d'une certaine manière.
Autonome.
Vous qui travaillez pour la revue Esprit, non mais on y voit, il y a des questionnements philosophiques et politiques, en fait, par ce protocole de la nature.
Oui, en fait, la crique, ce serait plutôt une république autonome ou une république qui aurait pris son indépendance et qui est un peu coupée du monde. Et les questionnements philosophiques, je dirais que c'est davantage cette idée de comprendre aujourd'hui où se place le tragique, comment il se situe dans nos vies. Et quand même, on est en Méditerranée, le tragique est très présent quand même, il est sous un grand soleil, il est inhérent en fait à cette vie, et c'est ça plutôt la question que je me suis posée, oui.
Et au XXIe siècle, quand on a une revue littéraire comme la vôtre, l'Allume-feu, qu'est-ce qu'on veut y défendre et qu'est-ce qu'on y fait ?
D'abord, je pense le travail collectif, parce que ça a été monté avec des copains, de vouloir aussi explorer, éditer. La revue, c'est un espace de tentative, en fait. Et donc, de se dire, finalement, voilà, on va créer son propre lieu dans lequel on va essayer plein de choses. On a voulu défendre aussi la publication de textes très différents, pas forcément nouvelles, poésie, mais toute forme d'écriture. Et je pense que la revue, c'est en fait la liberté à portée de main.
C'est la crique.
C'est complètement la crique, c'est le refuge et en même temps l'ouverture au monde. Donc
l'endroit était complètement exposé au vent et Nine adorait ça. Il y a quand même Nine qu'on retrouve et Coco qui sont les deux personnages qui font l'été de leurs 18 ans en fait au bord de cette crique. Elle trouvait là-bas tout ce qu'elle attendait du monde, les grandeurs et toutes ces questions pouvaient enfin se projeter ici dans un amalgame existentiel. Elle fréquentait à la fois Dieu, la mort et la nature et se sentait comme happée par ses révérences. Merci beaucoup, c'était
Merci.
Un extrait des Enfants de la Crique, Rémi Baille, Le bruit du monde, les éditions qui vous publient. À bientôt et bonne route.
Merci.
Merci Mathilde et bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Nicolas.
Grand bien vous fasse dans quelques instants.
Si je vous dis baisse progressive de la libido et du désir sexuel, baisse d'énergie, troubles du sommeil, bouffée de chaleur, sudation plus forte sans activité physique, plus grande irritabilité, eh bien je vous parle de l'andropause qui touche les hommes à partir de 45-50 ans jusqu'à la fin de la vie. N'hésitez pas à nous appeler au 01. Ne rigolez pas, Léa, s'il vous plaît. C'est très sérieux. 01-45-24-7000.
Merci, Ali. À suivre les infos.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque ? Non ? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel, prise de poids rapide, pieds et chevilles gonflés, fatigue excessive. Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque.
Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie.
Hey, les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige.
L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS, vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
En ce moment, plus que jamais, la recherche est essentielle. Gustave Roussy, classé premier centre européen de lutte contre le cancer, a besoin de vous. Saviez-vous que vos impôts peuvent aider à guérir le cancer de l'adulte et de l'enfant au XXIe siècle? Grâce à votre don, déductible de l'impôt sur la fortune immobilière ou de l'impôt sur le revenu, vous vous joignez au combat des médecins, chercheurs et soignants engagés au quotidien au service des patients atteints de cancer.